Bon mercredi à tous, bienvenue à l'émission L'heure juste, émission d'affaires publiques où on vous donne, comme le nom le dit, l'heure juste sur certains dossiers. À notre habitude, on aborde plusieurs sujets et on les aborde avec différents invités. Aujourd'hui, on n'a que deux sujets à l'émission avec trois invités. Vous allez voir, on va jaser d'entrée de jeu du dossier du préhospitalier. Les services préhospitaliers dans la région, c'est quoi? C'est les services ambulanciers. Il y a trois ambulances sur le territoire, mais défi de main-d'œuvre qui fait en sorte que des fois, il y a un véhicule qui doit rester stationné, faute de personnel, pour le conduire. Et cette situation-là devrait s'aggraver, ce qu'on dit en tout cas, ne devrait pas s'améliorer à partir du 1er avril, puisqu'il y avait des incitatifs en vigueur qui incitaient donc des ambulanciers de la ville, des paramédics du centre urbain à venir chez nous. Et il y avait une prime, un bonus pour pouvoir le faire. Et tout ça est abandonné à partir du 1er avril, donc ça aura un effet chez nous, assurément. On jaserait de tout ça avec Jérémy Landry, les vice-présidents en relations de travail pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Et on recevra également Chantal Lamarche, la préfète de la vallée de la Gatineau, pour discuter de ce dossier-là, puisque le service ne répond pas à ses attentes et, comme je disais, ne devrait pas aller en s'améliorant. Donc, elle a des craintes. La préfète Lamarche à ce niveau-là. Et la deuxième portion de l'émission L'heure juste aujourd'hui sera consacrée à un même dossier et à un même invité. On recevra l'ancien maire de Denôme, Gaétan Guindon, qui a démissionné de ses fonctions récemment. Ça s'est fait le 22 mars dernier. C'était effectif depuis le 24 mars. Toute cette décision-là a été prise dans la foulée des accusations de conduite avec faculté auxquelles il faisait face et auxquelles il a plaidé coupable. Donc, il devenait finalement illégitime là, pour poursuivre ses fonctions. On va revenir avec lui justement sur la genèse de tout cet épisode-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé tous ces problèmes-là, les déboires judiciaires là, avec la faculté affaiblie au volant? Il est accusé aussi d'avoir utilisé 3 500 $ ou presque là, d'argent des contribuables avec la carte de crédit de la municipalité pour acheter de l'alcool. On lui posera la question, qu'est-ce qu'il a fait avec ces sous-là? Comment ça a été dépensé? Donc, on va lui donner la chance de s'expliquer et qu'il nous donne l'heure juste sur ces différents épisodes là, qui se sont produits dans les dernières années. Ça risque d'être fort intéressant, donc restez avec nous pour entendre tout ça avec l'ancien maire de Denôme, Gaétan Guindon. Mais d'entrée de jeu, je le disais, les services préhospitaliers, ça ne va pas en s'améliorant dans la région. On a vécu dans les dernières semaines quelques épisodes où il manquait de main-d'œuvre et où un véhicule préhospitalier, là, une ambulance, devait rester stationnée. Ça fait en sorte que, chez nous, on en a trois ambulances. Quand il y en a une de stationnée, il n'y en a plus que deux. S'il y a des transferts à faire entre des régions pour des cas plus graves, les ambulances peuvent être occupées durant une longue période de temps. Donc, tout ça, là, ça crée des défis. Et il y a le syndicat, justement, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec qui travaille là-dessus pour essayer d'avoir des gains au niveau du gouvernement pour faire améliorer les choses. Et on en parle, justement, avec Jérémy Landry, les vice-présidents relations de travail pour la Fédération. Monsieur Landry, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, d'entrée de jeu, des situations comme celle que je décris, où il manque des quarts de travail, où il manque des véhicules, c'est pas quelque chose qui est anormal, en fait extraordinaire, c'est quelque chose qu'on vit de temps en temps ici et là à travers la province, là.
Oui, effectivement, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment dans la province de Québec, plus particulièrement dans certains secteurs où on a des problématiques qu'on vit avec les paramédics. Le problème derrière tout ça, ce qu'on croit, nous, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Puis quand il arrive une situation, comme exemple à Maniwaki, où présentement un corps de travail s'est retrouvé sans paramédics, c'est que le recrutement est difficile pour l'employeur d'aller chercher des paramédics à la dernière minute pour aller combler cet écart de travail-là. Ce qu'il faut comprendre dans le passé avec la coopérative des paramédics de l'Outaouais, quand il arrive une situation de ce genre-là, l'employeur avait mis des incitatifs pour les paramédics pour se déplacer dans le secteur, exemple, de Maniwaki. Donc, il rouvre les corps de travail disponibles à tout le monde en temps supplémentaire et offre des incitatifs tels payer le kilométrage ou payer un petit montant de plus sur le tarif horaire du paramédic. Là, présentement, ce qu'on vit en Ottawa, c'est que tous ces incitatifs-là ont été abolis par la coopérative des paramédics de l'Outaouais via le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis ça fait en sorte de moins encourager les paramédics à aller travailler sur des corps de dernière minute. On s'entend qu'on aime ça avoir de la prévisibilité dans nos horaires de travail. On s'entend qu'une maladie peut arriver fréquemment, rapidement. Donc, quand l'employeur est au fait d'un corps de travail qui est dépourvu d'un paramédic, il doit le remplacer rapidement. Là, dans le cas de Maniwaki, en fin de semaine, ce qui est arrivé, c'est que l'employeur n'a pas réussi à combler ce corps de travail-là avec des paramédics de la région. Pour quelle raison? On le sait pas. Il y avait peut-être plus de paramédics de disponibles sur la liste de rappel. Les incitatifs sont plus là. Donc, c'est pas intéressant pour un paramédic, exemple, de Gatineau, de se déplacer à Maniwaki puis devoir payer, sortir de l'argent de ses poches pour aller faire un corps de travail en temps supplémentaire. C'est pour ça qu'on dit, si les incitatifs seraient de retour pour les paramédics, ça irait, ça nous mettrait un plaster sur le bobo, là, selon nous. C'est quelque chose qu'on demande, qu'on aimerait ça que cette pratique-là revienne à la CPO.
Pourquoi est-ce que, là, j'ai l'impression que la CPO est comme un peu l'artisan de son malheur en abandonnant? Est-ce que c'était leur décision d'abandonner ça?
Non, c'est pas nécessairement leur décision. On s'entend okay. qu'en à l'été 2023, le ministère de la Santé et des Services sociaux a imposé aux employeurs des nouveaux contrats de service. Qui dit contrat de service dit argent, dit politique entre le gouvernement et les employeurs. Donc, oui, les employeurs ont les mains liées par rapport à ça. Ils doivent respecter le contrat de service que le ministère de la Santé et des Services sociaux leur ont donné. Donc, c'est sûr que, puis là, on le voit provincialement parlant, où il y a des irritations un peu partout sur le territoire du Québec. Là, pour la CPO, c'est la perte de ces incitatifs-là. Il y a d'autres endroits au Québec que c'est différent. Donc, c'est sûr que la CPO a les mains liées derrière ça, la coopérative, mais c'est des choses qu'il va falloir travailler éventuellement à revoir un peu, à cause que c'est plate. Il y a une pénurie de main-d'œuvre de paramédics au Québec. Les listes de rappel sont très écourtées. Quand il arrive un corps de travail qui doit être comblé à la dernière minute, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour l'employeur de trouver du monde pour mettre en place.
Le recrutement, la rétention, ça ressemble à quoi chez nous en Outaouais?
Ben, on a un cégep d'enseignement à Gatineau qui donne la cohorte de technique ambulancière pour les paramédics, les soins préhospitaliers d'urgence. C'est sûr que on réussit toujours à avoir de l'embauche annuellement, mais c'est jamais dans la meilleure optique. On espérait plus. On s'entend qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui rentrent sur les cohortes qu'il y en a qui finissent sur les cohortes. On s'entend que des fois, il y a des taux d'abandon assez élevés sur certaines cohortes au cégep. Dans le meilleur des mondes, il manque de paramédics à la grandeur du Québec. On aimerait ça aussi avoir peut-être plus d'étudiants qui sortent des cégeps d'enseignement. On veut aussi garder nos paramédics en place, à cause que présentement, les incitatifs pour rester à l'emploi de techniciens ambulanciers paramédics au Québec sont pas très favorables aux paramédics. On s'entend qu'on a peu de conditions de travail. Puis là, on parle aussi conciliation travail-famille. Il faut aller en recruter. Oui, ça, c'est une des choses. Mais à
faut
la
les retenir.
Du recrutement, il faut les retenir aussi.
C'est ça.
C'est ça qui est décourageant un petit peu, parce qu'on s'entend que l'Outaouais, c'est un grand secteur, un grand territoire avec plusieurs casernes ambulancières dessus, puis qu'on s'entend que oui, il y a Gatineau, oui, il y a Macham, il y a Maniwaki, Fort Coulonge, Notre-Dame-du-Lot, il y a plein de secteurs dans l'Outaouais, mais c'est pas tous ces secteurs-là qui sont attrayants pour les paramédics. Mm-hmm. Donc, il faut trouver des solutions pour rendre le travail intéressant, conciliation travail-famille, des horaires de travail. Il y a plein de choses. En négociation de la convention collective, je suis assis aux tables de négo au niveau provincial. Puis c'est difficile d'aller chercher quelque chose pour les paramédics en négociation. Le ministère est fermé. On réussit à aller chercher des miettes, mais vraiment, conciliation travail-famille, on parle aussi de la santé psychologique des paramédics. On réussit à aller chercher très peu pour ça, puis c'est des choses pour nous qui sont très importantes.
On a trois véhicules, si je me concentre, dans la vallée de la Gatineau. Un du côté de Maniwaki, deux du côté de Maniwaki, un du côté de Gracefield. On parlait ensemble en ronde hier, puis vous me donniez des chiffres. Là. On n'a pas nécessairement des chiffres qui démontrent un besoin d'avoir 4 ou 5 véhicules chez nous, c'est exact?
Bien, là, présentement, avec les dernières statistiques que le gouvernement a sorti pour l'année 2022-2023, on s'entend que les taux d'utilisation clinique, un peu, c'est le taux que le paramédic passe, le nombre d'heures que le paramédic passe dans un véhicule ambulancier avec un patient. Pour ce qui est de Maniwaki, ils sont à 35%, puis pour Gracefield, ils sont à 28%. Donc, les taux d'utilisation clinique, théoriquement, c'est que l'ambulance n'est pas convoitée à son plein maximum. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, si l'ambulance n'est pas là, puis que c'est le seul appel du mois qu'il y a, exemple, puis qu'il rentre un deuxième appel, là, il y a toujours des problématiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement se fier au taux d'utilisation, les données du ministère, parce que des chiffres, ça parle beaucoup, on peut les faire interpréter comme qu'on veut. Ben. On s'entend, on veut s'assurer qu'il y ait des ambulances disponibles pratiquement en tout temps pour pouvoir répondre à des appels d'urgence. Puis si c'est pas le cas, c'est sûr que le déploiement dynamique des véhicules, mettons exemple dans un secteur où il y en a plus de disponibles, transférer dans un secteur où il y en a plus, c'est des options qui sont possibles. Le déploiement dynamique, c'est quelque chose qui est efficace sur un territoire, c'est que tu viens déplacer des ambulances. Puis on parle de déplacement d'ambulance pour couvrir des zones des fois qui sont dépourvues d'une ambulance. Donc, dans l'exemple de en fin de semaine avec Maniwaki, ce qui s'est passé, il restait seulement une ambulance. Advenant que cette ambulance-là aurait parti pour un transport longue distance ou pour plusieurs heures à l'extérieur, compte tenu que le besoin du bloc opératoire n'était pas comblé dans le secteur, il aurait fallu principalement qu'une ambulance d'une région avoisinante vienne couvrir le secteur. Puis ça, je ne sais pas dans les factuels si ça a été fait. Mais ça, le déploiement dynamique, ça avait quand même réglé une grosse partie du problème. Mais encore là, il faut qu'il y ait des ambulances disponibles aux alentours.
Bien, écoute, c'est justement là que je voulais vous amener. Vous êtes allé tout seul parce que c'est justement dans des grands territoires. Tu sais, en ville, on peut être peut-être plus, justement, en plus de marge de manœuvre. Chez nous, bien, ça part soit de Gatineau-Macham ou du côté de Mont-Laurier. Encore là, c'est une autre région administrative. Il y a des défis, justement, particuliers quand on est dans des milieux ruraux où... petite partie du centre-ville de Gracefield, pour aller à l'extrémité de Gracefield, tu peux rouler une bonne demi-heure, là. C'est juste dans des chemins de côté qui sont pas asphaltés nécessairement. Donc, ça peut rallonger les délais. Donc, c'est justement, en temps normal, 3, c'est suffisant, mais c'est précaire comme situation. Il n'y a pas besoin d'arriver grand-chose pour que l'équilibre s'effondre et qu'on ait des besoins qui sont pas comblés, là.
En plein ça, on s'entend que 3 ambulances, on s'entend que c'est bien, mais le problème, c'est si qu'il arrive, mettons, à l'exemple, un accident, puis que les 3 ambulances sont convoitées sur cet appel-là, ça se peut qu'il arrive un autre événement ailleurs, puis que les ambulances ne soient plus disponibles. Dans l'optique, dans le meilleur des mondes, c'est sûr qu'on voudrait toujours avoir des ambulances disponibles pour répondre aux urgences, mais c'est pas possible. On s'entend que le territoire, comme vous dites, il est grand. Déplacer une ambulance, exemple, de Mont-Laurier ou d'un peu plus bas sur le secteur pour aller couvrir le secteur où il y a des délais de transport pour se rendre dans ces régions-là. Mais il faut que le gouvernement investisse un peu d'argent par rapport à ça. Parce que là, moi, ce que je vois, il a sorti médiatiquement parlant dernièrement un événement à Val-des-Monts, qu'on disait que Val-des-Monts, le temps à réponse est vraiment long en Outaouais. Puis là, on parle d'une région un petit peu plus urbaine que rurale. Ouais. On s'attend que Val-des-Monts est couvert par Gatineau Métro, les ambulances qui sont dédiées à Gatineau. Mais là, ce qui nous traumatise un peu dans tout ça, c'est que là, on a des statistiques qui sont vraiment pas bonnes pour ce secteur-là, puis il y en a peut-être d'autres ailleurs dans l'Outaouais. Mais mettons, si on prend l'exemple concret de Val-des-Monts, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé un nouveau budget, des nouvelles recommandations, des surplus d'argent pour investir dans des régions du Québec. Mais pour l'Outaouais, aucun argent a été injecté par rapport à ça. On comprend pas encore pourquoi il n'y a pas eu d'ajout d'effectifs ambulanciers pour le secteur de Gatineau à incluant Val-des-Monts pour acheter une ambulance supplémentaire. On s'entend que les taux d'utilisation de Gatineau sont très élevés. Le ministère a ces chiffres-là, c'est lui qui nous les procure. Puis, il n'investit pas l'argent pour mettre des équipes additionnelles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on déplore à la Fédération des employés du CFPD du Québec. Pourquoi ne pas injecter l'argent dans les places où il y en a besoin, que les statistiques le démontrent? Puis, on s'entend que effectivement, en achetant des ambulances à Gatineau plus, en achetant un peu plus d'ambulances sur le territoire, puis quand on parle de déploiement dynamique, si, exemple, l'événement de Maniwaki aurait fait en sorte de ne plus avoir d'ambulance en fin de semaine, il aurait pu prendre une ambulance d'un secteur d'à côté puis la déployer vers Maniwaki. Donc, il ne faut pas être fermé à l'ajout d'équipes ambulancières. On s'entend qu'ils ne peuvent pas en rajouter 50 sur le territoire de l'Outaouais, mais prendre en considération les secteurs où il y a un besoin, les ajouter, puis après ça, effectuer un déploiement dynamique vers les secteurs, des fois, qui en ont de besoin, sporadiquement parlant, là.
Jérémy Landry, vous êtes vice-président aux relations de travail pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous éclairer par rapport aux besoins et aux demandes et aux solutions qui pourraient être apportées à ce niveau-là. C'est apprécié.
Parfait, un gros merci.
Donc, on voit que les défis sont nombreux et qui sont appelés à le demeurer. On en parlera dans un instant avec Chantal Lamarche. On poursuit donc la discussion au niveau des services préhospitaliers.